Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Madame, monsieur les commissaires, bonjour, bon matin.
Bonjour.
Bonjour.
On va commencer, bien sûr, avec un sujet incontournable ce matin, je pense. La plus haute augmentation de taxes foncières à Montréal depuis 2011. La moyenne, c'est 4,1 % pour une résidence moyenne. Là, si vous faites le calcul, une maison qui vaut en moyenne 568 000 $, c'est une augmentation de 164 $ par année. Alors, Luc, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? On fait quoi
ben,
avec ça?
T'sais, c'est pas blanc ou noir. C'est sûr que quand tu compares les titres avec la réalité, là, il y a un écart, là, parce que les titres, notamment Journal de Montréal, tu sais, les quatre fers en l'air, puis aussi, si tu écoutes les villes défusionnées, tu sais, les villes défusionnées sont évanouies sur le bord de la route, la bouche ouverte, la langue sur le côté, là, eux autres, ils sont plus capables. Là. Mais il y a une inflation. L'inflation, c'est l'inflation pour tout le monde, tu sais. La ville de Montréal s'est fait de quoi? Des contrats, des salaires, puis des intérêts.
Ouais.
Parce que et ces trois postes-là augmentent.
Mm-hmm.
Augmentent même dans certains cas plus que l'inflation pour les intérêts. Fait que c'était inévitable. Maintenant, la question, c'est de savoir c'est est-ce qu'on peut couper. Ça, c'est une autre question.
Nathalie?
Ouais, est-ce qu'on peut couper, effectivement? Je pense qu'on peut toujours couper, Luc. Mais si tu es un citoyen de Mercier Hochelaga Maisonneuve ou Pierrefonds Roxborough et tu dois composer avec une augmentation de plus de 5 % dans certains arrondissements, plus de 6 %, c'est sûr que tu la trouves pas drôle. Puis tu te questionnes sur la capacité de la ville à gérer ses priorités. Ce matin, il y a un auditeur qui nous a envoyé, Luc, un courriel. Il s'appelle Ali. Lui, je pense que c'est le profil type là, du propriétaire, classe moyenne, qui a un duplex avec sa femme, deux enfants. Il n'y a pas le moyen de le rénover, mais l'édifice est bien entretenu. Et là, il s'interroge sur les priorités de la mairesse. Il dit, ben oui, qui paye, par exemple? Je sais que ça va te faire réagir, mais je le dis quand même. Qui paye pour tout le réseau de développement des pistes de vélo? Il dit, pourquoi pas appliquer le principe de l'utilisateur-payeur? Parce qu'il dit, c'est injuste. Parce qu'il dit, moi, mon duplex a pris a augmenté de 200 000 $ au rôle d'évaluation en 2023, alors que j'ai fait aucune rénovation. Il y a énormément de propriétaires à Montréal qui sont dans cette situation.
Mais, okay, oui, mais tu gères ça comment, l'utilisateur payeur? Tu mets,
une immatriculation pour les vélos, par exemple, c'est ce qu'ils suggèrent ce matin.
Oui, mais je peux y répondre directement parce que la question m'a été posée mille fois en conseil.
Oui,
premièrement, on a regardé le scénario de A à Z. C'est Ali son nom, Monsieur Ali?
Oui, Ali, absolument.
Alors, Monsieur Ali, on a regardé le scénario à plusieurs reprises et le coût d'administration des plaques d'immatriculation était plus cher que les revenus qu'on en tirait. Pourquoi? Parce qu'il faut l'utilisateur payeur, comme vous le dites là, c'est utiliser. On paye pour ce qu'on utilise. Un réseau cyclable, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'un réseau routier, par exemple, ou qu'un réseau de transport en commun. Ça se démolit pas. Une piste cyclable, là, allez voir les pistes cyclables qui sont construites, par exemple, dans des espaces isolés de la rue. Comme, quand c'est sur la rue, ça fait partie de la rue. Quand c'est isolé de la rue, allez voir combien d'années il dure. Ça dure pour toujours. Tu construis, puis 25 ans après, il y a quasiment pas de crack dedans parce qu'un vélo, ça pèse rien. Il y a pas de poids, il y a pas de camion. Il y a pas. Donc, si l'utilisateur payeur, ça te ramènerait des clopinettes, là.
Ben écoute, on demande aux citoyens montréalais d'acheter une vignette pour le stationnement. Pourquoi il n'y aurait pas des vignettes pour les vélos?
Parce que le stationnement, ça coûte 1500 $ par année à gérer pour une ville. Une place de stationnement sur rue, quand tu calcules l'affichage, le déneigement, le ramassage des feuilles, les interdictions de stationner ou pas, etc., tout ça, ça coûte plus de 1000 $ par année à la ville. Une voie cyclable, ça coûte rien, quasiment rien.
Ben, ça coûte rien. C'est vrai, combien le rêve a coûté, là?
Oui, voilà. Quand on tombe dans les grosses infrastructures, là, rêve, là, il y en a pour 500 millions sur 10 ans, c'est-à-dire 50 millions par année. Mmh. 50 millions par année, ça représente 2% du budget d'investissement de la ville. C'est 10 fois moins que le réseau routier. Même quand on fait des gros trucs.
Mais il faut que quelqu'un le paye, ça. Il faut que quelqu'un le paye. Il n'y a pas de subvention du gouvernement pour ça.
Mais
tu comprends?
Qui paye?
C'est un peu le sens de...
Qui paye les rues à Montréal? Ce sont les taxes. Les automobilistes ne paient pas les rues à Montréal. Ça, c'est une fabulation.
Non, mais
c'est les taxes qui payent les rues. Fait que c'est aussi des taxes qui payent les pistes cyclables. Ouais, Monsieur Ali, paye pour son, le réseau routier, le réseau cyclable, les parcs. Il y a pas, il rajoute pas une vignette sur sa voiture pour payer les routes.
La discussion qu'on a est intéressante parce que au printemps prochain, la ville tient un sommet sur la fiscalité, l'objectif étant de chercher de nouvelles sources de revenus. Alors, tu vois, le débat qu'on a ce matin ou l'échange qu'on a, c'est est-ce que la ville, effectivement, pourrait tendre vers davantage un système où l'utilisateur payeur serait mis à contribution. Là, ils vont lever deux nouvelles taxes, entre autres pour les grands stationnements et pour les commerçants qui utilisent l'eau potable. Ça, c'est intéressant. Là, on s'inspire du principe de l'éco-fiscalité. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de ce côté-là? Parce que, dans le fond, depuis 2017, depuis que la mairesse est élue, là, le budget de la ville a augmenté les dépenses ont augmenté de plus de 1,3 milliard de dollars. Et beaucoup, on dépense, mais on semble pas beaucoup se questionner sur la manière peut-être d'augmenter la productivité de certains services, de réduire certaines dépenses. Tu comprends? Mmh. On est toujours dans une dynamique où il faut en ajouter. Bon, c'est bien plus de policiers, parfait. Là, il y a de l'argent dans le budget qui a été confirmé hier pour assurer la gratuité dans le transport en commun pour les 65 ans et plus. Mais du côté du payeur de taxes, Luc, je pense que tu es capable de comprendre ça. Toi-même, tu étais un ancien maire. Moi-même, je suis une ancienne mairesse, ancienne ministre des Affaires municipales. Chaque augmentation du compte de taxes, il faut toujours la justifier.
Mais là, je parlais à Mme Olivier ce matin, là. Il y a 650 employés de. Il va y avoir 650 employés de plus l'année prochaine. Est-ce que ça, c'est nécessaire absolument qu'il faut. Là, ils disent oui, mais on s'arrange pour que ces gens-là soient essentiels, bon, etc. Mais...
Allons-y dans le cœur du sujet, là, qui est la réduction du budget. Moi, je suis pas contre. Donc, la Ville de Montréal, essentiellement, là, dites-vous bien ça, essentiellement, c'est une ville en reconstruction. Ce qui nous coûte cher, c'est la reconstruction. L'eau, par exemple, arrive au premier poste de dépense à 700 millions de dollars par année. Parce qu'on fait quoi? En même temps, on répare, on met aux normes l'usine Jean R. Marcotte, dans l'est de la ville, à Rivière-des-Prairies, au coût de plus d'un milliard de dollars. En même temps, on refait le réservoir McTavish avec la salle des pompes, avec des valves, etc. Des sommes. Puis après ça, tout le réseau potable de l'Ouest. Ça, là, c'est le gros du gros du gros, là. Après ça, on fait du réseau routier. Alors maintenant, est-ce qu'on peut couper? Dans le réseau routier, je donne un exemple. La rue Sainte-Catherine, pour faire les égouts, il y en a pour 100 millions. Tu peux décider que tu refermes comme c'était avant. Alors, trottoir, 2 mètres, béton, puis asphalte. Tu vas sauver. Tu vas sauver un bon 100, 150 millions de dollars sur, 10, 15, 20% du budget sur 100 millions. Est-ce que c'est ça qu'on veut, là? C'est la rue centrale de Montréal. La question est posée. Si on pose la question à M. Ali, est-ce qu'on devrait refaire les trottoirs tels qu'ils étaient sur la rue Sainte-Catherine, puis ou alors on met 20% de plus, puis on fait des trottoirs larges, on met des bancs, on met des arbres. Ben moi, je pense, c'est ça la question de base, là. Mais moi, ma réponse est claire. Tu peux pas avoir un enrichissement des maisons puis des immeubles à perte de vue, parce que c'est ça qui s'est passé, avec un appauvrissement de nos espaces collectifs.
Non, mais Luc, c'est parce que l'image qu'envoie la ville, c'est on semble pas beaucoup se questionner sur les façons de faire qui contribueraient à réduire la pression sur la taxe foncière. Ouais. Par exemple, à Québec, actuellement, là, on augmente les dépenses de 7%, mais la taxation, l'augmentation de la taxe est plafonnée un peu plus de 2%. Et pendant ce temps-là, on crée un fonds à terme qu'on veut constituer de 300 millions de dollars pour faire face au changement climatique. Mmh. À Montréal, c'est plus de 24 700 employés. On veut en embaucher plus. Je reconnais que sur le plan de la gouvernance, Montréal a des défis qu'aucune autre ville au Québec n'a, là. C'est 19 arrondissements, un conseil municipal, un conseil d'agglomération. Mais raison de plus pour dire, nous, dans notre propre cour, peut-on faire les choses différemment? Parce que la question, Luc, parce que le défi, là, c'est qui va pouvoir continuer de vivre à Montréal lorsqu'il était une famille, sachant
que... La taxe, c'est une valeur de infiniment faible par rapport à la valeur des maisons. Tu sais, la taxe aujourd'hui, là, l'augmentation de taxe, là, c'est 7 $ par logement à peu près. De combien ont augmenté les logements avec la spéculation immobilière? Le paiement du logement est passé. On est passé de logements qui coûtaient 300, 400, 400, 500, 700, 800 $ à des logements qui coûtent 1100, 1300, 1600, 1900 $. C'est là qu'est le problème. Pas le 7 $ de la taxe, d'augmentation de la taxe. Mais oui, il y a des possibilités de coupure. C'est une ville qui a décidé de maintenir des choix. Puis on peut les mettre sur la table. Personnellement, moi, je couperais le service de développement économique. Développement économique, là, ça sert à zéro pin-bar. C'est le gouvernement du Québec qui fait du développement économique. Développement social, inclusion, diversité. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ou est-ce que c'est les élus qui pourraient le gérer? Développement durable. Tu sais, moi, je suis pour l'écologie, mais une équipe de 50 personnes en développement durable, je la couperais. Puis, mais en tout, tu vas sauver 200 millions, là. 200 millions sur 7,7. Le gros des coûts, c'est la reconstruction de la ville.
On va être obligé de couper sur ce sujet parce qu'on a un autre qui est très intéressant tout de suite après la pause.
La commission Normando-Ferrandaise.
Moi, je m'attendais hier à quelque chose. Je me suis installé devant la télé. J'ai dit, va se passer de quoi? Ils vont avoir un coup de théâtre à l'Assemblée nationale. Ça va être spectaculaire. Ils vont prendre les députés du Parti québécois. Ils vont sacrer dehors. Non, c'est pas arrivé. Il s'est rien passé, finalement.
Et tu disais, Louis, avant la pause, c'est un sujet intéressant, les députés du Parti québécois qui ne veulent pas prêter serment roi.
Ouais.
J'ajouterais, c'est un sujet qui est devenu lassant. On n'en peut plus d'entendre les députés du Parti québécois parler de leur serment roi. C'est des manœuvres qui n'ont absolument plus rien à voir avec les priorités des Québécois. On est dans la petite politique, là. En fait, les trois députés ressemblent à des enfants qui font une crise de bacon dans un allée d'épicerie, là. c'est carrément ça, là. Puis là, hier, j'entendais PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, dire « On va être là jeudi, puis on s'attend à rentrer. » Ben, tu vas faire quoi? Tu vas défoncer les portes du Salon Bleu? Tu vas attendre que le sergent d'armes vienne te mettre les menottes? En fait, ce qu'ils veulent, c'est obtenir l'attention des caméras. Ils veulent... là, on est dans le spectacle.
Ça marche,
certain, on n'arrête pas d'en parler. Non, mais honnêtement, je trouve que c'est, quand je dis que c'est devenu lassant, c'est qu'une majorité de Québécois, là, on n'est plus capable d'entendre parler de ça, là. Puis moi, je dis, il y a des règles qui existent, il faut les respecter. C'est le choix de ces trois députés de ne pas avoir prêté serment au roi, alors qu'ils assument les actes, les conséquences de leur choix. Québec
donc, pour toi,
de faire différent. Ouais. Ils ont prêté serment roi en affirmant ce sera le dernier serment qu'on va prêter. La loi va être adoptée, puis voilà, on va passer à notre appel.
OK, alors toi, t'es contre un accommodement, par exemple?
Absolument, totalement contre. Et ce que je trouve absolument scandaleux, c'est la pression indue qu'ils mettent sur les épaules de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, qui a pris le soin hier de lire la décision de son prédécesseur à l'effet que, ben, pas de serment roi, tu n'entres pas à l'Assemblée nationale. Tu n'entres pas au Salon Bleu à titre de député, simplement.
Ben moi, je comprends très bien Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a dit coucou, je panier. Non, pas coucou, je panier. Moi, ça me tente pas. C'est que ça va continuer de faire du trouble, moi, là. Mais oui, fais-en du trouble. Fais-en du trouble. De toute manière, il va aller vers quoi pendant la session de deux semaines? Il va avoir. Il y a trois sujets. Premier sujet, augmentation des tarifs ou pas, gel des tarifs ou pas à 3%, là, fixation des tarifs à 3%. Deuxièmement, il va y avoir les chèques qu'on va envoyer. Il y a le discours de Legault en ouverture. Puis, il y a cette discussion-là sur. L'allégeance au roi.
Ouais, il y a aussi la mise à jour économique le 8. Mais dans les projets de loi, tu sais, si le Mont-Jolin Barrette a dit on va présenter un projet de loi rapidement, le problème, Nathalie, tu pourras confirmer, mais hier, j'entendais Marc Tanguay dire nous autres, on est plutôt ouverts, sauf qu'on veut entendre, on veut des consultations là-dessus. Mais là, si tu fais des consultations, ça passera pas là.
Non.
Deux choses. La première, sur le plan politique, le Parti libéral du Québec n'a aucun intérêt à jouer sur le même terrain que le Parti québécois. Et j'ai envie de vous dire quel est également l'intérêt du PLQ de laisser traîner une affaire qui pourrait se régler dans un claquement de doigts, là, 1, 2, 3. Luc, je réagis fortement à ce que tu viens de dire. C'est parfait, ils mènent le trouble à l'Assemblée, deux semaines de session. Non, moi, je dis, il y a un élément fondamental qui doit être décrié, dénoncé dans le comportement des députés du Parti québécois. C'est le fait qu'ils bradent l'institution. Ils bradent l'autorité de l'Assemblée nationale, dont ils sont membres. Les députés de l'Assemblée nationale sont d'abord et avant tout des législateurs. Alors, le message qu'ils envoient, c'est on est contre l'institution que nous-mêmes, on incarne et qu'on représente au quotidien. Je trouve qu'on est dans l'écoute. C'est, pour moi, le scandale, il est là. Comment ces trois députés vont après ça dire, ben oui, on a confiance à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est l'institution qu'il faut respecter, alors qu'eux-mêmes démontrent exactement le contraire en ce moment.
Moi.
T'as l'air passionné, Luc.
On s'en fout. Ouais, moi, je m'en fous. Il se moque d'une institution risible. Alors, se moquer d'une institution...
Non. Pas du tout. Voyons donc, l'Assemblée nationale est loin d'être risible. Non, c'est là où on adopte les lois, Luc. Ouais. Voyons
non,
donc.
Mais la clownerie, là, au début, là, l'allégeance au roi, puis tout. Hey, tout le monde...
OK, là, tout le monde ça, est... ça va.
Mais, c'est quoi le pourcentage de personnes qui ont porté allégeance au roi qu'ils sauvaient s'ils se noyaient dans une flaque d'eau? Zéro. Tu sais, comme, on s'en fout, tout le monde s'en fout, puis les autres, ils font du fun avec ça. Ben,
Luc, le serment, on s'en fout, mais on se fout pas de l'Assemblée nationale.
Non, bien sûr.
OK, je te pose une question, Nathalie. OK, toi, tu as siégé à l'Assemblée nationale pendant plusieurs années. Bon, tu as prêté allégeance au roi, t'as un peu jusqu'à je calcule.
Aucun changement.
À la reine, là, au moins trois fois, hein? Trois ou quatre fois? Trois fois.
Quatre fois.
Alors, si jamais là on rend la loi est adoptée, parce que ce qu'on veut faire avec la loi dans le fond, c'est de dire ben, si vous voulez prêter allégeance, faites-le, mais si vous voulez pas prêter allégeance, faites-le pas, puis c'est pas plus grave que ça. Toi, est-ce que tu prêterais allégeance?
Non, probablement que non. Aujourd'hui, non.
Si t'avais le choix?
Non, si j'avais le choix, j'aurais... Non, parce que... Il y a personne, tu sais, on se reconnaît pas là-dedans, là. Oublie ça, là. On s'entend tous là-dessus. Même étant membre du Parti libéral du Québec, parce que l'impression que peut donner la position du PLQ actuellement, c'est qu'on est pro-serment, on est pro-monarchie.
Ouais.
Moi, la monarchie, ça me fait pas vibrer beaucoup dans la vie. Quoique j'ai un immense respect pour la reine qui nous a quittés. Mais au-delà de ça, tu l'as dit, Luc.
Moins pour le roi.
On s'en fout, tu sais, on s'en fout.
Moi, je suis sûr que la santé publique va dire que ça donne des pierres aux reins de porter allégeance au roi.
Il y a juste toi qui peux dire une chose comme celle-là. Non, mais il y a juste Luc qui peut penser comme celui-là, comme ça. Mais l'autre chose, c'est que ces trois députés, là, ils disent, on défend nos principes. Non, on n'est plus dans la défense des principes, là. Peut-être que ces trois députés veulent marquer l'histoire, veulent dire, écoutez, c'est pas parce qu'on est trois qu'on n'est pas capable de brasser les colonnes du temple. Et c'est trois contre le reste des députés, contre le reste, contre l'Assemblée nationale. Moi, c'est un grand inconfort.
Faut aussi comprendre qu'à trois députés, tu te rattaches à peu près à tout pour faire parler de toi. Puis jusqu'à date, on a pas mal plus parlé d'eux autres qu'on a parlé dans la dernière semaine et du Parti libéral, qui doit être bien content, remarque, parce qu'à chaque fois qu'on parlait du Parti libéral, avant, c'était en mal, et de QS. Alors, tu sais, c'est eux autres qui ont...
pour l'instant, ils sont partis avec
leur profil. Ils ont gagné la joute de la visibilité.
Ils ont volé chaud, comme on dit en français. Là,
exact.
Absolument. Puis cet après-midi, cet après-midi, c'est le discours inaugural du premier ministre. Demain, Nathalie Roy. Et la pression sur Nathalie Roy est incroyable parce que qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va persister, signer, continuer d'être solidaire de son prédécesseur et maintenir la ligne dure, c'est-à-dire pas de serment, tu rentres pas au Salon Bleu, ou elle va plier les chines? Tant qu'à moi, c'est pas ce que je lui recommanderais parce qu'elle vient tout juste d'arriver, elle doit asseoir son autorité et je pense que ce serait mal vu de faire un quelconque compromis ou accommodement à propos de ce que veulent les
petits. Le petit ange sur mon épaule et le petit diable sur mon autre épaule, le petit ange dirait oui, mais en même temps, elle peut aussi, ça serait démontrer un signe de bonne volonté puis un signe d'ouverture à l'égard des
oppositions. Non. Allez, écoute, il y a une question de...
Tu peux le voir des deux côtés.
Oui, non, mais attends une minute, là.
Oui, mais là...
Les principes, là, parce que quand Paul Saint-Pierre Plamondon dit « C'est une maison qui nous appartient à l'Assemblée nationale », bien, dans toutes les maisons, il y a des règles pour s'assurer d'un bon fonctionnement. Puis dans ce cas-ci, bien, il y a les règles qui doivent être respectées. Luc, tu étais plutôt silencieux sur ce sujet.
Ben,
ça fait mon affaire, dans le fond, ça fait mon affaire.
C'est tout. On est pressé un petit peu. Mais merci. Puis, réponse demain. On pourra s'en parler vendredi matin.
C'est